RFI, 23h30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et Afrique Soir vous est présenté par Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. À la une, la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent leur offensive dans l'est du pays. Ils sont arrivés dans la localité de Kamanyola, située à une soixantaine de kilomètres au sud de Bukavu. Au Sénégal, le début d'un mouvement de grève de 48 heures dans les hôpitaux, les médecins protestent contre leurs conditions de travail. La saison des pluies à Madagascar et des inondations dans la zone très peuplée des hauts plateaux. À suivre également le 60e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. Nous reviendrons sur le bilan de l'action du président Adama Barrow qui a mis fin au règne du dictateur Yahya Jammeh. C'était en 2016. Le football, la Ligue des Champions, Benfica élimine Monaco ce soir en arrachant le nul 3 partout à Lisbonne. En barrage retour et jouera les 8e de finale. Tous les résultats avec Sofiane Amazian. Enfin, la sélection musicale d'Hervé Mandina alias DJ Facemaker, et la parité est au programme, vous l'entendrez. En RDC, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent donc leur offensive dans l'est du pays après avoir pris la ville de Bukavu, capitale du Sud Kivu le week-end dernier. Les rebelles sont entrés dans la localité de Kamanyola ce mardi, à une soixantaine de kilomètres au sud de Bukavu. Bonsoir Alexandra Bonjon.
Bonsoir.
Kamanyola, où se trouvaient jusqu'à présent les forces burundaises qui se battent aux côtés de l'armée congolaise.
Oui, selon plusieurs sources locales, des affrontements ont éclaté en fin d'après-midi aujourd'hui entre rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les troupes burundaises déployées à Kamanyola. Selon ces sources, les combats à l'arme lourde et légère ont duré plus d'une heure, après quoi les soldats burundais ont été aperçus quittant Kamanyola centre en direction de la plaine de la Ruzizi. L'armée congolaise, quant à elle, s'était déjà repliée plus au sud, à Uvira. Toujours selon des sources locales, la situation était à nouveau calme ce mardi soir. 80% de la population avait déjà fui la localité les jours précédents. Contactée, l'armée congolaise n'a pas commenté. Kamanyola est une localité importante, poste frontière avec le Rwanda et sur la route du Burundi. C'était également à Kamanyola que les militaires burundais et congolais s'étaient installés pour faire barrage aux rebelles du M23 qui poursuivent leur avancée vers le sud de la province et notamment vers Uvira.
Alexandra Bonjon. Quant au président Félix Tshisekedi, il s'est rendu ce matin en Angola, à Luanda, pour s'entretenir avec son homologue João Lourenço qui a pris les rênes de l'Union africaine. Cette rencontre survient 3 jours après la chute de Bukavu. Patient Nicodi.
Les discussions ont porté sur la progression de la FCM23, en particulier au sud Kivu. Sur le plan diplomatique, aucune avancée notable n'a été enregistrée. Les deux chefs d'État ont abordé les mesures à prendre, tant au niveau bilatéral que régional. Ils ont également échangé sur les conclusions de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue vendredi dernier à Addis Abeba. Cette instance n'avait ni cité ni condamné le Rwanda, insistant sur l'absence de solution militaire au conflit et appelant à privilégier la diplomatie et le dialogue. Le Conseil avait surtout exhorté à la reprise immédiate des négociations avec toutes les parties prenantes, y compris le M23, dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Selon plusieurs sources, l'Angola soutient cette approche de dialogue. Félix Tshisekedi, en revanche, refuse tout échange direct avec le M23 et insiste sur la relance du processus de Luanda qui implique directement Kigali. À ce stade, aucun détail n'a filtré sur les conclusions de leurs échanges. De son côté, la communauté internationale mise sur la proximité entre João Lourenço et Félix Tshisekedi pour favoriser une désescalade.
En bref, dans l'ouest du continent, au Burkina Faso, la ville de Djibo, dans la province du Soum, une nouvelle fois prise pour cible par les groupes djihadistes. Tôt ce mardi, des hommes armés ont attaqué plusieurs postes au sud, au sud-est et au nord de la ville. Selon les habitants, au moins 6 soldats ont été tués. Plusieurs assaillants ont été neutralisés, selon une source sécuritaire.
RFI à Dakar. 92 FM.
Les hôpitaux du Sénégal vont tourner au ralenti. Les médecins ont décrété une grève de 48 heures. Ils protestent contre leurs conditions de travail. Ils réclament davantage de recrutement ainsi que de meilleurs salaires. Écoutez le secrétaire général du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens du Sénégal, Mamadou Demba Ndour. Il est au micro de Léa Lisa Westerhoff.
Depuis 4 ans, voire 5 ans, l'État du Sénégal n'a plus recruté de médecins dans la fonction publique, encore moins de pharmaciens et de chirurgiens dentistes. Il y a un manque de médecins criard au niveau des structures de santé. Allez dans n'importe quelle structure de santé au Sénégal, vous vous rendrez compte vous-même que les délais d'attente dans les files d'une consultation réglée. Parce que les consultations, on est obligé de les surcharger pour pouvoir absorber la demande. Là où on doit avoir 4 ou 5 médecins, c'est 1 ou 2 qui sont là-bas. Des fois, les spécialistes même manquent dans toute une région, ce qui fait que la charge de travail est incommensurable. Et ça, ce qui est incompréhensible, c'est qu'au même moment, ces mêmes spécialistes voient les jeunes collègues qui doivent venir les appuyer dans les postes de travail, laissés en rade, ils sont au chômage, l'État ne les recrute pas. Et nous avons retenu encore la nécessité de construire des hôpitaux dans les divers départements du pays. Parce qu'au Sénégal, on se retrouve avec des départements entiers sans hôpital, ce qui fait que les populations peinent à trouver une structure de santé capable en même de prendre en charge leurs préoccupations en termes de santé.
Cela fait 95 jours que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est incarcéré en Algérie, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. L'écrivain, connu pour être une voix critique du régime algérien, risque la prison à perpétuité. Une soirée en son soutien a lieu ce soir à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Des écrivains français et du monde entier se sont rassemblés pour Boualem Sansal. Plusieurs textes de l'écrivain ont été lus. Une initiative portée par le président de l'IMA, l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang.
C'est un acte important quand se retrouvent plusieurs centaines d'écrivains, de poètes, pour se rassembler et dire d'une seule voix « Liberté pour Sansal ». Et à partir de là, vous le verrez, ce mouvement d'appel va se propager partout. Et j'ai envie de dire aux amis algériens, j'aime ce pays, je le dis très profondément parce que je suis né à la conscience civique à travers la guerre d'Algérie. Je me suis bagarré avec beaucoup d'autres amis pour que l'Algérie soit indépendante. C'est un grand peuple, c'est un pays à la beauté fulgurante. C'est un pays qui a donné naissance à des cinéastes, à des écrivains, à des poètes, à des musiciens exceptionnels. Ce serait la grandeur de l'Algérie que nous aimons d'ouvrir les portes à Boualem Sansal.
Voilà, Jack Lang au micro de Baptiste Coulon. Alger qui proteste contre la visite lundi de Rachida Dati au Sahara occidental. Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères affirme que cette visite de la ministre française de la Culture est, je cite, « malvenue et condamnable à plus d'un titre ». Elle traduit un mépris de la légalité internationale de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Fin de citation.
Afrique Soir sur RFI.
En Gambie, à Banjul, le président Adama Barrow met en garde la jeunesse de son pays contre la tentative d'émigrer vers l'Europe. Ne croyez pas les histoires que vous entendez à propos d'autres terres. Il n'y a pas de pays de cocaïne, c'est ce qu'il a dit. C'était lors d'un discours prononcé à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. Le 18 février 1965, le pays devenait le 37e État africain indépendant après 15 ans d'âpres négociations. Retour sur cette page d'histoire avec Willy.
Les négociations pour l'indépendance ont débuté dès les années 50. Les mouvements nationalistes se sont organisés en partis politiques et on voit naître l'emblématique Parti populaire progressif de Daouda Jawara. La Gambie, colonie britannique qui longe le fleuve Gambie, est enclavée à l'intérieur de la colonie française du Sénégal. Alors les colons et les indépendantistes envisagent la création d'un seul État indépendant, la Sénégambie. Économiquement, le projet est intéressant pour les deux pays, mais les différences culturelles et administratives entre une colonie française et britannique sont beaucoup trop marquées pour pouvoir parvenir à un accord. Résultat, le Sénégal obtient son indépendance en 1960 et la Gambie un début d'autonomie. 2 ans plus tard, des élections sont organisées et remportées par le parti de Daouda Jawara. Il poursuit les négociations avec le Royaume-Uni jusqu'à l'indépendance de la Gambie en février 65. Le président Jawara se sera maintenu pendant une 20aine d'années. Depuis, la Gambie n'a connu que 2 autres présidents, Yahya Jammeh et Adama Barrow.
Et justement, sous le président Yahya Jammeh, la Gambie connaîtra un régime autoritaire pendant 22 ans, marqué par des violations des droits humains et une répression féroce de l'opposition. En 2016, à la surprise générale, le dictateur perd les élections face à Adama Barrow, marquant ainsi le retour de la Gambie sur le chemin de la démocratie. Fatou Jagne Sangor, défenseur des droits humains en Gambie, est notre invité. Elle répond à Willy Diallo.
Je pense que si on peut faire vraiment le bilan du président Adama Barrow, on peut dire que il y a une emphase de tout son programme sur la partie droits humains, les détentions arbitraires, la plupart des cas de torture, de détention, de maltraitance, bon, n'existe quasiment plus. Et au niveau des engagements internationaux, la Gambie a ratifié un certain nombre de conventions que le régime passé avait refusées.
La commission Vérité, Réconciliation et Réparation a rendu son rapport sur les atrocités commises sous le régime de l'ancien président, Yahya Jammeh. Qu'est-ce que ça a changé dans le pays?
C'est des chantiers énormes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut les réparations pour les victimes. Nous espérons que les réparations vont être bientôt quantifiées. Maintenant, au niveau des sanctions, le gouvernement a accepté plus ou moins les recommandations. Ils ont commencé à relever un certain nombre de fonctionnaires de leur service. Par contre, il y a deux ou trois recommandations que le gouvernement n'avait pas acceptées, que les citoyens avaient jugées arbitraires.
La CEDEAO a annoncé en décembre son intention de créer un tribunal spécial pour la Gambie. Est-ce qu'il s'agit là d'une décision historique?
Oui, personne n'y croyait à un moment donné. Les Gambiens étaient un peu découragés. Il y aura un tribunal ad hoc qui va être mis en place avec l'assistance de la CEDEAO pour vraiment juger ces personnes qui ont été identifiées ou qui vont être identifiés, y compris l'ancien président Jammeh. Et donc, je pense que la partie la plus délicate, la partie la plus politique et sensible, va s'ouvrir bientôt.
Yahya Jammeh a annoncé son retour dans le pays pour les prochaines élections. Est-ce qu'il pourrait se représenter en 2026 s'il le souhaite?
Je ne pense pas. Je pense que son retour serait sûrement pour répondre de ses actes devant ce dit tribunal dont on a parlé. J'imagine mal les autorités gambiennes, même la société gambienne, accepter Jammeh. Il a perdu de son soutien. Et puis, je ne pense pas que la communauté internationale pourra accepter un tel acte. Lorsque cette décision de mettre en place ce tribunal a été connue, il fallait bien qu'il réagisse d'une certaine manière.
Fatou Jagne Senghor, défenseur des droits humains en Gambie, avec Wely Diallo. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 1h42 à Antananarivo, direction Madagascar, où c'est la saison des pluies. Depuis une semaine, ce sont les hauts plateaux, la zone la plus habitée de la grande île, qui sont les plus touchés. Toutes les écoles sont fermées depuis lundi. Et près de la capitale, on dénombre un mort et près de 5000 sinistrés du fait des inondations. Au cœur d'Antananarivo, l'eau est même montée à plus d'1,40 m dans les maisons. Et pour la population, les risques sanitaires sont réels. Reportage Sarah Teto.
En ce mardi matin, dans sa maison, Ezra n'a plus que de l'eau jusqu'aux genoux. La veille, sa pièce unique était entièrement submergée. Les murs, encore trempés et couverts de moisissures, attestent du récent sinistre.
Quand il pleut, comme l'eau ne s'écoule pas bien à cause des égouts bouchés, elle entre par notre fenêtre. Hier, j'avais de l'eau jusqu'au sein.
Faute de moyens pour aller ailleurs, Ezra doit s'accommoder de ce foyer insalubre malgré les effets notoires constatés sur sa santé et celle de ses deux petits-enfants.
Mon bébé, par exemple, il tousse. Depuis sa naissance, il a les voies respiratoires toujours encombrées. Mon aîné, lui, a la diarrhée depuis 2 ans. Et moi, regardez mes pieds. Ils sont brûlés et pelés à force d'être en permanence dans l'eau stagnante.
Ces montées des eaux poussent aussi les rongeurs à se déplacer jusque dans les maisons, encore plus que d'habitude. Gauthier Domini, chargé de recherche à l'IRD, supervise une étude sur une maladie infectieuse bactérienne négligée, la leptospirose, une maladie transmise par l'urine des rats.
La montée des eaux, ça rapproche encore ces réservoirs de microbes qui peuvent se transmettre à l'homme, des populations qui sont déjà très vulnérables habituellement. Et alors, en plus, quand l'eau rentre dans les foyers comme ça, vous avez par exemple la leptospirose, où l'homme se contamine par des petites blessures. Nous, on la trouve très fréquemment chez les rongeurs de la capitale, mais on la trouve également dans l'eau. Et tout ça fait en fait une espèce de soupe infectieuse auprès de laquelle les gens sont en contact exacerbé au moment des pluies.
Pour l'heure, difficile encore de connaître l'ampleur des dégâts que cette maladie mortelle cause chez les malgaches. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Le football, l'AS Monaco ne participera pas au 8e de finale de la Ligue des Champions. Le club du Rocher, battu à l'aller 1-0 par Benfica, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul spectaculaire à Lisbonne. Score final 3-3 et malgré une très grande prestation du milieu offensif marocain Elias Ben Seghir, les Monégasques ont pêché défensivement. Le résumé de cette folle soirée avec Sofiane Amazian.
La malédiction n'est pas prête de s'arrêter. Aucun club français n'est venu s'imposer sur la pelouse de Benfica. 19 rencontres, aucune victoire, mais Monaco était vraiment tout proche. Frustré à l'aller et cette défaite sévère 1-0, les Monégasques sont venus à Lisbonne avec de meilleures intentions offensives. Menés contre le cours du jeu, le club du Rocher a su égaliser rapidement grâce au japonais Takumi Minamino avant de passer devant son adversaire du jour par l'intermédiaire d'Elias Ben Seguir. Le Marocain, bien servi au point de pénalty, revit depuis deux matchs buteur face à Nantes en championnat pour un succès 7-1 et décisif en Coupe d'Europe. Dépassés, les benfiquistes recollent miraculeusement sur pénalty avant de tomber à nouveau sur une frappe puissante du franco-nigérian natif de Lagos, Georges Ilenikena. Alors que les prolongations se profilaient pour les joueurs d'Adi Hutter, une énième bévue défensive a condamné les coéquipiers du Sénégalais Lamine Camara, 3 buts partout. Match spectaculaire mais regret immense pour Monaco, supérieur mais bien éliminé. La saison est encore longue, plus de Ligue des Champions, plus de Coupe de France, seulement le championnat et cet objectif clair, terminé sur le podium.
Sofiane Amazian est parmi les autres résultats de la soirée. Qualification du Bayern Munich après son nul 1 partout face au Celtic Glasgow. Ça passe pour le Feyenoord de Rotterdam qui a concédé le nul 1 but partout sur la pelouse du Milan AC. Enfin, la surprise nous est venue d'Italie. Le Cercle Bruges est allé s'imposer 3-1 face à l'Atalanta Bergame pour valider la qualification malgré un but du Nigérian Ademola Lookman. Et puis le foot encore, c'est une rencontre qui fait beaucoup de bruit en Afrique. Après coup, un match dans la catégorie des moins de 17 ans dans le cadre du tournoi Unifac entre le Cameroun et la Centrafrique à Douala. Les Lionceaux se sont imposés sur le score sans appel de 9-0. Une très lourde défaite, très mal digéré par le sélectionneur centrafricain qui accuse les joueurs camerounais d'avoir triché sur leur âge, entraînant le début d'une polémique. Saliou Diouf.
La compétition, c'est pour les U17. Ce sont les mots remplis de suspicion prononcés par Dertin Boulengue, le sélectionneur centrafricain. Des mots qui ne passent pas pour Alioum Seydou, car pour l'entraîneur camerounais, toutes les dispositions ont été prises pour éviter ce genre de doute.
Comme on a la chance d'organiser ces tournois chez nous, il y a des centres des IRM qui sont agréés. Et nous, ça nous a permis d'aller faire les tests IRM. Et l'organisation nous permet d'avoir le stade 5. Et nous, on s'est limité même au stade 4. Et comme les pays voisins, ils n'ont pas cette chance-là, ils sont obligés de venir qu'avec les joueurs qu'ils ont seulement regardé et ils ont ramené. Après, l'organisation est là pour valider qui est éligible ou pas.
Une polémique qui est arrivée aux oreilles de ces troupes, des lionceaux totalement affectés selon l'ancien joueur de Nantes et de Sedan.
Moi, je le vois de près, c'est mes enfants. Je vois combien de fois il faut les remotiver par rapport à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux.
Mais pour le secrétaire général de la Fédération Centrafricaine, Octave Mahamat Adialo, la question était tout à fait légitime au coup d'envoi de cette rencontre.
Le constat que tout le monde a fait, et sur le terrain, c'est celui de l'écart visible de la morphologie des athlètes camerounais par rapport aux athlètes centrafricains.
Adialo n'en démord pas, les joueurs camerounais n'avaient pas des physiques d'adolescents, il assume même cette lourde défaite sportive.
Un enfant qui a moins de 16 ans, ça se voit, quelle que soit sa morphologie. Et au-delà des méthodes scientifiques que nous ne contestons pas, il y a les pratiques viciées dans nos pays qui contournent très souvent les mécanismes de vérification. Ceci dit, le résultat Cameroun contre la RCA est mauvais du côté centrafricain, nous l'acceptons.
De son côté, la fédération camerounaise condamne fermement ces allégations qu'elle qualifie de mensongères, diffamatoires et infamantes.
Salut Diouf sur RFI, allez on ouvre la page écho de cette émission. Et nous partons en Afrique du Sud pour l'incontournable rendez-vous des acteurs miniers, le Mining Indaba qui vient de se tenir au Cap, sujet incontournable. La nouvelle donne dans les pays de l'AES, l'Alliance du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui se sont lancés dans un bras de fer avec les compagnies minières pour tirer davantage de revenus de l'exploitation des ressources. Une situation qui interroge sur l'avenir des investissements, c'est Afrique Éco avec Claire Bargelès.
Au Mali, après la révision du code minier en 2023, Assimi Goïta entend faire briller l'or, selon son expression, en employant la méthode forte. Trois cadres de la société australienne Resolute Mining, dont le PDG, ont été détenus puis relâchés en novembre sur fond de désaccord fiscal. Quatre employés de Barrick Gold sont, eux, toujours incarcérés et l'entreprise a suspendu ses activités au niveau de sa très grande mine de Loulo-Gounkoto après la saisie de 3 tonnes d'or. Le groupe canadien s'est lancé dans une procédure d'arbitrage suite à l'échec de négociations l'association. Pour son PDG, Marc Bristow, Bamako prend le risque de faire fuir les investisseurs.
Aucun des pays très bien dotés en minerais n'a reçu de gros investissements dans son économie sur les 10 dernières années. Et pourtant, il continue de vouloir augmenter les redevances.
Le Mali n'est pas le seul à mener ce combat. Le Burkina Faso menace de retirer aux multinationales leur permis, une étape déjà franchie par le Niger, qui a privé l'année dernière le groupe français Orano de son autorisation pour exploiter le site d'Imouraren. Mamadou Koulibaly, du cabinet Satis Partners, décrypte ses stratégies sur la scène du mining Indaba.
On peut observer beaucoup de similarités entre le Mali, le Burkina et le Niger. Et la tendance va au-delà du simple rééquilibrage des relations commerciales entre un État et des entreprises. Dans ces trois pays, on a de gros défis sécuritaires, ce qui demande beaucoup de fonds pour y répondre dans un contexte où l'aide de donneurs occidentaux s'est tarie. Et au-delà de tout cela, il y a la place que prend l'idéologie et les ambitions nationalistes que l'on peut observer chez ces dirigeants de transition.
D'autres sociétés parviennent, elles, à trouver un terrain d'entente avec ces régimes, à l'image de B2Gold. Grâce à un accord avec la junte malienne et un paiement de 30 millions de dollars, la compagnie canadienne continue d'exploiter le site de Fécola, qui répond aux règles de l'ancien code minier, comme l'explique son PDG Clive Johnson.
Tout le monde fait face à des situations différentes, avec des projets au passé divers qui correspondent à différents codes miniers. Pour notre part, nous avons pu conclure cet accord très important avec le gouvernement en septembre. Donc je dirais que les relations sont très bonnes. Le gouvernement veut la même chose que nous, soutenir une production réussie à Fécola et permettre l'expansion de la mine.
Il faut dire que le prix de l'or est actuellement au plus haut, ce qui encourage les entreprises minières à continuer leur exploitation. Mais face à ces nouvelles contraintes se pose la question de l'appétit pour des projets futurs et des dépenses d'exploration. Claire Bargelès, de retour du Cap, RFI.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
L'ambianceur officiel d'Afrique Soir qui nous embarque dans sa chronique musique certifiée Afroclub, c'est bien évidemment Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sylvie, très surprise.
Oui, tout à fait, plaisir de vous retrouver à ce micro pour une nouvelle sélection totalement égalitaire. Aujourd'hui, je vois deux artistes féminines d'un côté, deux masculins de l'autre. On va commencer avec la rappeuse gabonaise Marlès et son titre satirique Sidiki Diabétique.
Oui, Marlès qui s'est invitée dans le clash entre les rappeurs du Gabon et ceux de la Côte d'Ivoire, une joute verbale initiée par l'Ivoirien Imra, sans véritablement le vouloir d'ailleurs. Marlès est un talent brut qui s'est construit une réputation solide au sein du label Mapan Lifestyle. Outre sa plume aiguisée, Marlès a également une technique qui peut rappeler celle de Diams. Et en attendant son prochain projet, album ou EP, on écoute Sidiki Diabétique, salué par les amateurs de rap au-delà du Gabon.
Et aussi, man. Dis t'as oublié les cafards que nous on écrit le script. En matière de rap, c'est plus la prison que tu cherches, c'est la fin du monde. Follow-car. Ça c'est l'ombaki, c'est le chanvre, nous c'est les coups de poing de maki. Avec vos têtes comme les débats des maquis. Sale, le manger vous fait du propre. Rapper au bruyant, mets ça au propre. Sensus, c'est ça ton travail, ton coccyx. Ça fait qu'on a tous supporté Trump. Tu te vends d'être riche, mais ton pays, plus la dette. Je prends l'éléphant, j'arrache son ivoire et j'encule avec ma. Vos réalisateurs connaissent leur employeur, en conseil d'aura vous louer chez le bailleur. En triche, comment je risque à le même endroit, vos cuisses et la piste. Qu'on va transformer en mythe, canal irrégalement et dit. Chaîne nous le rap les rois, fait qu'il le rap les noirs. Si c'est coupé, décalé, c'est bon, mais si c'est rappé, les gars vont nous appeler les PD. Ah, pays c'est gâté, les gens là ne peuvent plus voler les petites. Vous n'articulez pas mieux que Sidiki Diabaté. T'as même quelle force, Sidiki Diabétique. Ah, pays c'est gâté. Mamba Mouta, Mamba Rango, tout nous est rentré. On va vous sodomiser, position Mbappé. Et à son corps, Sidiki Diabétique.
Et on va rester dans le rap, Hervé, avec cette fois un Guinéen et un autre ambianceur, Lil Sako.
Oui, Lil Sako, sociétaire du groupe Instinct Killer, qui dévoile Bamola, une chanson qui invite l'auditeur à bouger, à sauter, à danser, mais surtout à partager son message, celui de la lutte contre la consommation excessive d'alcool. Lil Sako a eu la bonne idée d'attirer l'attention du public avec une chanson légère en apparence et dont le message est très sérieux. Je vous invite à regarder le clip de Bamola, tourné dans les rues de Conakry avec des scènes totalement décalées. C'est pour vous, Sylvie.
À gauche, à droite, 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 à
long in a drug, but more long in a lady. I can't get a girl baby. Nangaymo, but more long in a nangaymo. Nangaymo, but more long in a nangaymo. Il a bu, il veut pas reconnaître qu'il est sous. Il est sous, pas mon là, il est sous. Il a bu, il veut pas reconnaître qu'il est sous. Oiseau rouge,
il est des Thierry,
pas moi là.
Il est des Dory,
pas moi là.
Il est des Sari,
pas moi.
Il est des Sagama, pas moi là.
Ah, il est bien sous. Allez, on se calme. On va se calmer, Hervé Mandine. On va passer une ambiance beaucoup plus sereine avec la chanteuse sénégalaise Diella, qui a célébré la Saint-Valentin avec un titre inédit.
Oui, Diella, qui est l'une de mes chouchous en matière de musique au Sénégal. Et pour la Saint-Valentin, qui est devenue un rendez-vous incontournable des sorties musicales, elle a dévoilé Werouay, un slow acoustique qui a été spécialement conçu pour exprimer les émotions et les sentiments romantiques. Diella ralentit la cadence et déploie toute sa douceur avec amour dans une chanson mélodieuse avant de sortir un nouveau projet dès le mois prochain.
Ginaaw mem ci sey mbir gento yow la 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 yow la.
Et on arrive déjà à la fin de cet Afro Club, mon cher Hervé. DJ Facemaker, vous avez choisi la collaboration entre le chanteur Agachou de l'Angola et Yalevis de la RDC.
Rien que pour vous entendre dire Agachou, je devrais le mettre plus souvent. La chanson, c'est One For Me et je pense que vous serez conquise dès Agachou, les premières baby. Notes. Et je parle sous le contrôle de Jonathan Brady, notre réalisateur. Agachou est accompagné de l'étoile congolaise Yalevis pour son premier single de l'année qui est une déclaration d'amour au groove métissé et aux racines afro-universelles. Il y a un jeu d'harmonie entre les voix des deux artistes R&B Afropop, une connexion validée à coup sûr dans l'Afro Club. On l'écoute.
Et c'est ainsi que se referme la dernière édition d'Afrique Soir. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. On vous salue bien, on vous dit à demain, portez-vous bien d'ici là et restez à l'écoute. L'info revient dans quelques instants. Bonne fin de soirée.
Priorité santé.
Charlie Dupiot vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Prendre soin de ses reins.
Jeudi.
La dépression masculine, quelle particularité dans les symptômes et l'expression de la maladie?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.